RMC.
I am very happy. I am sure with my staff that a good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, chers amis. Bonsoir.
Le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 2-1 à Monaco avec des buts signés Cavani et Neymar pour le Paris Saint-Germain. Moutinho avait réduit l'écart en toute fin de match, en fin de match du moins. Je vous rappelle les résultats d'ailleurs de cette 14e journée de Ligue 1. Saint-Etienne et Strasbourg avaient fait match nul pour débuter 2-2. Rennes a battu Nantes 2-1. Montpellier a battu Lille 3-0. Caen a battu Bordeaux 1-0. Victoire d'Amiens à Metz 2-0. 3 a battu Angers 3-0. Dijon avait battu Toulouse 3-1. Et puis cet après-midi, Lyon est allé s'imposer 5-0 à Nice. Marseille a battu Guingamp 1-0 et Monaco s'est donc incliné à domicile 2-1 face au PSG. Le Paris Saint-Germain a donc 9 points d'avance sur l'AS Monaco au classement. Monaco qui est maintenant à égalité de points avec l'Olympique Lyonnais et Marseille n'est plus qu'à 1 point de l'AS Monaco.
De ce duo.
C'est beau, non ? Pas mal quand même, c'est un peu relancé là derrière le PSG au classement, même si le PSG s'envole. Et puis, quand même, l'événement de cette journée, peut-être même l'événement de ce week-end, de cette semaine, c'est la victoire de la France en finale de Coupe Davis face à la Belgique, Daniel.
Exact, tu as raison, c'est une très bonne nouvelle.
T'as rien d'autre à dire, t'arrêtes pas de nous bassiner avec le tennis, ça, les Français gagnent, ça c'était pas arrivé depuis 2001, le mec il dit rien.
Je te dis que c'est une très bonne nouvelle. Enfin, c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait longtemps, parce que le tennis français en avait besoin. Après, si on regarde très objectivement ce qui s'est passé tout au long de cette campagne de Coupe Davis, ça pouvait pas être autrement quand même. Tu joues contre une équipe qui n'a qu'un seul joueur. Donc.
Goffin.
Bah oui, en l'occurrence. Voilà. Et ce joueur-là, ouais,
c'est ce que t'as fait. Enfin, moi, je suis d'un peu plus loin que toi, sûrement, mais c'est ce que t'as fait. Enfin, t'as fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là aussi, quoi. T'as éliminé qui
Non,
là,
en fait, t'as chaté tout du long, quoi. T'as joué le Japon sans son numéro 1, t'as joué la Grande-Bretagne sans son numéro 1.
Le Japon, ça se passe moins bien dans d'autres sports. Hein,
tu voilà. Et t'as battu les Serbes sans le numéro 1 et le numéro 2. Quoi. En fait, tu pouvais pas faire mieux. Quoi. Bon, c'est même plus un jackpot à ce niveau-là. Et les Belges, tu joues une équipe qui n'a qu'un seul joueur.
Jérôme
et qui
Thomas,
doit avoir un
super
tennisman,
me dit que c'est toujours comme ça en Coupe Davis, notre
producteur. Non, c'est pas absolument pas vrai.
Souvent.
Quand il y a la dernière fois qu'ils vont en finale, quand ils jouent et qu'ils perdent, ils sont contre Federer et Wawrinka. Des fois, il faut savoir profiter des événements et des tableaux. La France l'a admirablement bien fait, tant mieux. Mais c'est pas la Coupe Davis sur les 10 qu'ils ont gagné et sur les plus récentes qui va rester dans l'histoire, évidemment. Celle de Malmö, celle de Melbourne, celle de Lyon en 91, c'est largement au-dessus. Largement au-dessus.
Le Paris Saint-Germain est largement au-dessus en Ligue 1. Lui aussi s'est imposé 2-1 à Monaco. C'était la grosse affiche de cette 14e journée. On vous attend en 32-16 pour débriefer ce match. Vous le savez, l'important, c'est les 3 points. Et comme la France a gagné en Coupe Davis, c'est pas n'importe qui le dit.
Pour gagner une finale, il faut gagner 3 points. On a gagné, quoi. On est champion, quoi. On est content.
Yannick Noah, capitaine de l'équipe
de France. Et puis, le tennis français, il faut toujours qu'il y ait Noah dans les parages. Sans lui, il ne se passe
ça
rien.
Il a vraiment la culture de la gang, ce mec, quand même.
En tout cas, dans le tennis, c'est tout le temps quand il est dans les parages, ou en 2001, il n'est pas là, mais c'est son fils spirituel Forget, mais il faut qu'il soit tout proche pour qu'il se passe quelque chose, quoi qu'il en soit.
Pierre Ducrot, tes 3 points ce soir.
Eh ben écoute, en premier, j'ai mis l'ASM avec zéro intention dès le début de match et zéro agressivité. J'ai été très 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 surpris par le match de l'ASM. Alors même si on pouvait penser que le PSG serait au-dessus dans le jeu, par les individualités, collectivement, j'avais l'impression, moi, qu'on allait retrouver un ASM après la déconvenue en Ligue des Champions, qu'allait rentrer dedans, quoi, au moins qu'allait jouer un peu son va-tout. Et puis au lieu de ça, on a eu dès les premières minutes, dès les premières secondes du match, Monaco apathique, quoi, passif, presque surprenant parfois. On a vu des 1-2 sur les côtés des Parisiens où tu t'avais
presque
l'impression.
Ralenti, ouais.
Ouais, j'avais presque l'impression, tu sais, que c'était comme quand t'avais une opposition raisonnée des fois dans des exercices à l'entraînement, quoi. Donc ça m'a énormément surpris. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier point. Le deuxième point, j'ai mis Rabiot. J'aurais pu l'associer avec Draxler qui a été énorme, mais j'ai mis Rabiot. C'est tout parce que pour lui, enfin moi, son avenir est là. et plus il joue à ce poste-là, mieux il est, quoi. Je l'ai trouvé juste énorme aujourd'hui. Il était à la récup, il a été ensuite, il s'est transporté très vite vers l'avant, et donc j'ai presque envie de lui dire, tu vois, même quand t'es bon en tant que 6 et que t'as le jeu devant toi, tu peux y aller, quoi, et tu peux te faire plaisir. On l'a vu frapper, on l'a vu. Donc voilà, pour moi, son avenir est vraiment à ce poste-là.
Il est même plus lui qui, quand il parle foot, parle beaucoup de visibilité, parce que ça a l'air de l'intéresser, lui et sa maman. Il faut qu'il sache qu'en ce moment, il est bien plus visible et bien meilleur que Marco Verratti.
Qui a été le moment de très certainement mignon.
Cette dernière période a toujours été un des Parisiens le plus chouchouté, le plus mis en avant. Rabiot aujourd'hui est bien au-dessus.
Et le troisième point, j'ai mis Cavani parce que voilà, il m'impressionne.
16e but hein, ce soir.
Il m'impressionne toujours. Alors il y a ça, il y a le 16e but. Ah ouais. Il y a quelques coups qui joue où il est presque trop altruiste. Et puis il y a surtout.
Il a même défendu. Ouais.
Voilà, il y a surtout ses retours où 5-6 fois, et encore on en a peut-être oublié pendant le match, où tu le vois, il revient à fond. Une fois c'est à gauche, une fois c'est à droite quand Alves monte. Enfin voilà, c'est du Cavani. On y est habitué maintenant, mais c'est tellement bonnard, je pense, pour les joueurs qui jouent avec lui d'avoir un attaquant comme ça. T'imagines la Mbappé et Neymar à côté de lui quand ils se font une action offensive et qu'ils savent qu'il y a un Cavani avec eux qui va refaire 30 mètres, 40 mètres dans l'autre sens à fond. C'est un bonheur total, quoi.
Tes trois points, Daniel.
Bah, mon premier point, c'est de dire que le PSG a été très fort, même s'il a beaucoup croqué. Il faudra revenir sur cette domination énorme, mais trop peu concrétisée. Mais il n'en demeure pas moins que l'écart entre les deux équipes était grand. Et il m'a semblé grand et peut-être trop grand parce que, c'est mon deuxième point, j'ai trouvé que Monaco, et là je rejoins Pierre, a affiché un visage résigné dès le départ. Alors Jardim a tenté un coup tactique avec ses trois mecs dans l'axe et les deux sur le côté qui en fait ont joué défenseur, donc c'était une défense à 5, avec au milieu en plus deux défensifs plus Moutinho qui est pas un vrai joueur offensif, qui fait ce qu'il peut dans cette position qui ne l'affectionne guère. Et finalement on a vu pendant très longtemps Falcao et Keita Balde couper du monde. Et le visage de Monaco, moi, m'a profondément déçu. Et il se trouve que je regardais en même temps Valence-Barça.
Ah ouais, ouais.
Et Valence, par rapport à Monaco, en termes de moyens, en termes de joueurs, alors à l'instant T où on se parle, évidemment que Valence apparaît bien plus fort que Monaco, mais en termes de moyens, de vécu tout récent et de joueurs dans l'effectif.
Avec une équipe très remaniée en plus.
Et puis de place qu'ils doivent occuper dans leur championnat respectif.
Et puis Valence aussi redémarre une nouvelle aventure, avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs, avec un puzzle. Donc, l'excuse sans arrêt, Monaco s'est affaibli, Monaco ceci, mais regardez ce que fait Valence et regardez ce qu'a fait Valence ce soir contre le Barça.
Tu parles des intentions.
Le Barça a dominé et le Barça devait même gagner parce qu'il y a un but qui est rentré, mais là-bas ça n'existe pas. Mais ne serait-ce que visuellement ce que proposait dans les intentions la détermination Valence, si Monaco le fait, ils vont emmerder un petit peu plus le PSG. Même Marseille, qui je pense est intrinsèquement moins fort que Monaco, a proposé une meilleure intention, plus grande détermination contre le PSG. Même si ce soir-là, le PSG était peut-être moins impliqué. Enfin, peu importe. En tout cas, à l'arrivée, ça avait donné plus.
Et mon troisième point,
c'est la démonstration lyonnaise cet après-midi. C'est fort de claquer 3 fois 5-0 à l'extérieur dans une saison. On a beaucoup dit dans les points du lundi soir que Lyon dépendait beaucoup de Fekir.
Je l'ai dit,
on est beaucoup à l'avoir dit. Bah, force est de constater que Lyon peut jouer sans lui aussi, qu'il y a d'autres formules que de jouer avec lui, que ceux qui sont sur le terrain peuvent s'en sortir, progressent. Et j'ai même le sentiment là qu'on a carrément trouvé un style. Lyon est en train de devenir une équipe qui joue un peu comme les équipes à la mode, quoi. C'est-à-dire très rapide en phase de transition, avec une grande efficacité devant, de la bonne passe verticale. C'est pas mal. On est très 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 loin des deux premiers mois de compétition de l'année. Là, on est dans autre chose. Lyon, c'est le vrai dauphin du PSG maintenant.
Je vous donne mes trois points également. Alors moi aussi, ça concerne d'ailleurs le match entre Nice et l'Olympique Lyonnais. Alors déjà Nice, très inquiétant parce qu'ils sont 18e, ils sont barragistes, hein, les Niçois. Une victoire sur les 9 derniers matchs pour Lucien Favre et ses hommes. Ils ont pris leur plus lourde défaite à domicile depuis 1949. Alors c'est vrai que c'est des chiffres, c'est des stats, mais ne serait-ce que dans les intentions, ce qui s'est passé quand même aujourd'hui face à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas si c'est le vrai faux départ de Favre durant l'été, lui qui est annoncé partant notamment à Dortmund, le vrai faux départ de Balotelli que Favre voulait d'ailleurs pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des choses.
Celui de Thierry aussi.
Exactement, il y a série. On a l'impression qu'il y a des choses qui ont été mal digérées à Nice et qui s'en remettent toujours pas.
Mais Nico, on devrait se faire une petite liste. Là, on n'aura pas le temps, mais des vrais faux départs mal digérés. Et tu vas voir qu'il y a ceux que tu cites. Il y a évidemment Fabinho.
On va y revenir d'ailleurs.
C'est fait dans pas mal de clubs.
Ouais, les, ça laisse des traces.
Les problèmes de traces de l'intersaison.
Et le problème, c'est que ces traces-là, elles sont jamais immédiates, quoi. Le joueur, il se remet toujours très vite dedans.
Série s'est remis dedans, et puis finalement, on a l'impression que.
Non, mais c'est pas ça. C'est que ça revient ensuite avec les problèmes collectifs qui apparaissent plus tard dans la saison aussi, quoi.
Alors mon deuxième point, on parle énormément de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Alors Fekir était pas là aujourd'hui, ils en ont claqué 5, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie de parler un peu de la défense, parce que alors aujourd'hui, là aussi, c'est un chiffre, c'est un symbole, mais c'est important. Anthony Lopez a battu un record, le record d'invincibilité pour un gardien dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Ça fait 651 minutes qu'il n'a pas encaissé de but, Lopez, depuis un but en Ligue Europa, encaissé deux, face à Everton.
Là où dans les deux premiers mois, il prenait trois buts par match.
Exactement. Et là, l'OL, ça fait plus de 7 buts qu'ils n'ont pas encaissé de but. Ça aussi, on n'en parle pas souvent pour Lyon. Ils avaient énormément de problèmes, notamment la saison dernière, d'un point de vue défensif. Et là, on a l'impression que Genesio, il a trouvé un certain équilibre aussi à ce niveau-là. Et puis l'autre homme, c'est Draxler. Moi, je trouve qu'il a fait un match énormissime face à Monaco aujourd'hui. J'adore le voir à ce poste-là, au milieu de terrain, dans le cœur du jeu. Il avait de temps en temps joué là aussi avec l'équipe d'Allemagne. Il y avait énormément de doutes quant à son avenir du côté du Paris Saint-Germain. Il avait remporté la Coupe des Confédérations, vous l'avez suivi d'ailleurs sur SFR Sport avec la Mannschaft, dont il était le capitaine également. Voilà, ce gars est en train de s'imposer dans cette équipe.
C'est très souvent lui avec le Paris Saint-Germain qui apporte cette première passe dans le bon timing vertical. C'est très 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 souvent lui. Faudrait regarder combien en pourcentage, parce que ça serait intéressant, mais c'est très souvent lui qui joue vers l'avant pour Neymar, pour Mbappé, pour etc.
On rentre dans le vif du sujet de ce Monaco Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face à l'AS Monaco. Cavani a marqué le premier, Neymar sur penalty, Moutinho a réduit l'écart dans les 10 dernières minutes. Accueillons Thomas, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Thomas.
Salut les gars, comment ça va?
Bah et toi?
Salut,
alors Thomas, ça va? 9 points d'avance au classement, t'es heureux non?
Je suis très heureux. Si tu me permets Nico, est-ce que je peux passer juste un petit message?
Ah, tu commences par les dédicaces toi, vas-y.
Ouais, c'est pour mes potes de ma ligue, mon petit gazon, qui s'appelle L'Important, c'est les 3 points, donc tu vois comme quoi on est fan. Et souhaiter un très bon anniversaire à Tass.
À qui?
Un de mes amis, Julien, mais son surnom c'est Tass.
D'accord,
voilà. D'accord. Très bien.
Ça c'est fait,
et, un bon anniversaire. Merci. Et du coup, moi Nico, j'ai envie de te faire mes 3 petits points vite fait, si je peux. C'est Paris beaucoup trop fort pour la Ligue 1, comme vous avez dit. Techniquement, c'est impressionnant. Tactiquement, de mieux en mieux. Rabiot en 6, comme disait Pierre, c'est son poste. Draxler en espèce de 10, 10 et demi, je crois qu'on n'a jamais vu aussi bon PSG. Et Emery a eu l'excellente idée de le mettre dans ce milieu à 3 et de le faire jouer le plus possible. Je pense que là, Mota, on ne le reverra plus. En tout cas, pas dans le PSG mode Ligue des Champions. Et enfin, un PSG pas assez tueur ce soir. Mais moi, j'ai envie d'embrasser Cavani, de lui faire une statue. Et j'espère pour lui et pour la Ligue 1, parce qu'il en a quand même beaucoup bavé quand Ibrahimovic était là. J'espère pour lui et la Ligue 1 qu'il va battre le record de Skoblar, qui date quand même d'il y a 47 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un record. Ça fait 5 décennies qu'il est là. Et je pense que Cavani, c'est l'année ou jamais pour battre ce record-là. Quoi. Et c'est tout ce que je lui souhaite.
Alors, il y a pas mal de choses dans ce que vient de dire Thomas. Commençons peut-être par Cavani. T'en parlais tout à l'heure, Pierre.
Ça ouais, j'ai toujours adoré Cavani, même dans ces moments
il a pris cher.
Un petit peu plus dur. Oui, mais enfin, moi, j'ai jamais compris ceux qui critiquaient ouvertement Cavani et qui n'ont pas compris que Cavani était un joueur d'instinct. Voilà,
calmez-vous. Dans l'after, personne n'a jamais dit.
Non, mais il n'y a pas que l'after. Moi, il n'y a pas que l'after. Tu lisais les journaux, t'écoutais un peu la télé.
T'es la référence, le reste. Ils peuvent bien raconter ce qu'ils veulent, surtout n'importe quoi.
Non, mais il y en a un paquet hein, qui cassait du sucre sur son dos. C'est juste que des gens n'ont pas compris que Cavani est un joueur d'instinct, un joueur instinctif, et c'est pas le même type d'attaquant que Neymar, que Mbappé ou que d'autres buteurs en Europe ou dans le monde qui jouent sur des qualités plus techniques.
Ah, aujourd'hui, voilà, lui, même en Europe.
Ouais, non, t'en as pas.
Autant que lui. L'année dernière, il y avait les matchs quand Suarez mettait encore des buts.
Suarez, tu sais en quoi il est différent pour moi de Cavani, c'est que Cavani, alors il a du vice bien sûr, hein, comme tous les grands joueurs de foot aujourd'hui, mais Cavani pour moi est tout sauf un tricheur, alors que de l'autre côté t'as Suarez qui est un grand attaquant mais également tricheur.
Après,
pour moi ça rentre pas dans le style, c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat.
Le vice pour un œuf, c'est super important.
La tricherie, non. C'est pour ça. Non, mais c'est l'air de rien, c'est une arme en moins aujourd'hui dans le foot moderne que Cavani n'utilise pas. Et pourtant, il est encore plus fort qu'un Suarez aujourd'hui.
Oui, voilà. Après, qu'il après, pas ça. Après sur les deux trois dernières années, Suarez a fait des meilleures saisons que Cavani. Là, il se trouve aujourd'hui, aussi. Lui est au-dessus. Mais je disais là, dans le contexte actuel des numéros 9 en Europe, Cavani, il a un petit peu,
il a mis
un petit écart avec d'autres. Là, Harry Kane effectivement est en pleine bourre.
Tu peux pas comparer avec Kane, pour moi.
Cavani est au-dessus.
Ah oui.
Moi, je suis d'accord.
Ah oui.
Après, Gabi Jesus à City est quand même.
C'est pas exactement le même poste. Bah,
c'est un neuf, quoi. C'est les mecs que quand tu fais ton équipe, tu sais que tu vas le mettre en neuf. C'est comme Icardi à l'Inter, quoi.
Il est pas forcément titulaire, Jesus. Hein. C'est lui ou Agüero. Hein.
Il a pas joué.
Voilà. Lui tourne un petit peu, mais je dis dans la qualité des neufs, mais Cavani fait là
et une nouvelle fois, on va revenir à
le gratin complet.
On va revenir à un de ses atouts aussi, c'est qu'il marque plus de buts que ces joueurs-là. Et qu'en plus il travaille deux fois plus que tous ces joueurs-là qu'on vient de citer, quoi.
Voilà. Donc pour en revenir au match et à lui et par extension au jeu de l'attaque du PSG, autant le PSG m'a fait une impression extraordinaire ce soir, de qualité technique, de justesse, de tout faire très vite, récupération, exploitation immédiate du ballon, passe vers l'avant. Comme toi, Pierre, comme tout le monde, j'imagine qu'à un moment tu t'es dit bon, ça va faire 3 ou 4. C'est juste une question de moment et de à quel moment. Et c'est la première fois, il me semble pas cette année, les avoir vus autant gâchés. Est-ce que c'est épiphénomène
Il y a eu plusieurs choses. Le côté émotionnel, peut-être pour Mbappé, on a senti vraiment qu'il voulait beaucoup.
C'est ce que j'allais dire. En revanche, pour Mbappé, et bon. Il est très jeune et c'est normal qu'il ait encore besoin de progresser. Pour lui, c'est pas la première fois qu'on le voit rater. Ouais. Lui, c'est un attaquant fabuleux, mais c'est là qu'il faut également mesurer.
Il fait pas toujours les bons choix
dans
le dernier geste.
Ce que veut dire marquer des buts. Marquer des buts, c'est autre chose dans la panoplie de l'attaquant. Et Mbappé a pas encore complètement ça. Et ce soir, et c'est vrai qu'il a raté des trucs un peu dingues. Ouais. Et lui, en revanche, c'est pas la première fois. Mais pour le jeu de l'ensemble du PSG, de rater autant.
On l'a souvent exprimé pendant le match où on avait cette impression de grosse maîtrise du Paris Saint-Germain. Et dans les 25 derniers mètres, c'était un peu plus brouillon. Un peu moins efficace.
Bah, c'était brouillon carrément dans le tout dernier geste, même pas dans l'avant-dernier, parce que les occasions, elles étaient nettes, hein. Même Cavani en a mangé une énorme de la tête, alors que lui, de la tête, en plus, c'est vraiment son point fort, mais il rate pas, quoi.
T'es là?
Ouais, je suis toujours là.
Bah écoute, on a un cadeau pour toi. On va te remercier, Thomas. On va t'offrir un truc, c'est pas brouillon du tout. Un roi à Paris, Neymar, une biographie, événement retraçant le parcours incroyable du surdoué brésilien. Bonne lecture, mon pote.
Merci.
À bientôt,
merci
Thomas.
À vous, bonne soirée, à bientôt. Salut,
Thomas. Accueillons un autre supporter du Paris Saint-Germain. Accueillons et écoutons l'analyse de Mathéo. Salut, Mathéo.
Salut à tous, salut Aster.
Alors, est-ce que toi, comme Thomas qui était avec nous, là, tu t'es régalé ce soir en voyant ton Paris Saint-Germain?
Alors oui, moi je me suis régalé. Alors déjà, je vais pas forcément parler de l'efficacité, je pense que vous avez tout dit. Moi, ce que je vais retenir à partir du moment où le match est gagné, c'est le jeu. Le jeu était très bon. Neymar doit ressortir de ce match avec 4 passes décisives, il en fait aucune. Bon, c'est indépendant de sa volonté. Voilà, simplement une petite parenthèse, je trouve que Neymar avait été un petit peu moins bon durant 2-3 matchs là, clairement, cette semaine, il a remis les pendules à l'heure. Mais ce sur quoi je veux insister, et là c'est pas le supporter qui parle, c'est l'analyste, celui qui regarde la Ligue 1 dans sa globalité, comme Daniel d'ailleurs m'a précédé avant.
Tiens, pour l'image du foot. Ouais. 2 secondes, je te coupe, je suis désolé. En priorité au direct, il y a Javier Pastore qui est en train de livrer son analyse de ce match, victoire du PSG 2-1 ce soir à Monaco.
C'est très important pour nous d'avoir 9 points de différence pour continuer à faire ce qu'on fait, de gagner les matchs, d'essayer d'allonger le plus possible les points avec Monaco, qui l'année passée c'était un championnat très difficile et on n'a pas arrivé à gagner.
Javier, on a vu tout de même beaucoup d'occasions gâchées par le Paris Saint-Germain. C'est rare de voir aussi peu d'efficacité offensive. Il y a eu 2-1, mais le PSG aurait pu mettre beaucoup plus de buts ce soir.
Oui, mais c'est normal. On est habitué, vous et tous, on est habitué déjà de gagner 5-0, 4-0, 7-1. Et aujourd'hui, ils ne sont pas entrés, mais on a gagné les matchs, que c'est la chose plus importante. C'est normal qu'on ait arrêté beaucoup d'occasions, mais la chose qu'il est bien, qu'on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'année passée, et ça, c'est très bien.
Alors, on parlait des problèmes d'efficacité du Paris Saint-Germain, on a eu un début de réponse avec Javier Pastore. Mathéo, pardon, on t'a coupé.
Oui. Donc je disais, si on prend avec un regard plus haut ce qui s'est passé ce soir, on avait Daniel en parler, et d'ailleurs je vous invite à aller lire son interview qu'il m'a accordée, Daniel, sur la plume du numérique, voilà je me fais une petite pub, il en parle de ça, Et il dit très justement que le football français aujourd'hui progresse, mais a encore la marge à rattraper sur les autres championnats. Et là, ce soir, c'était terrible. On avait le premier contre le deuxième en Liga. On avait un deuxième qui est Valence, qui a plus ou moins les mêmes moyens, voire moins que Monaco, qui a proposé une réelle adversité, au-delà des erreurs d'arbitrage, qui a proposé une réelle adversité. On a eu en France un Monaco qui, moi j'étais dépité, à un moment j'en devenais presque supporter de Monaco par moment, en disant mais faites quelque chose, qui en fait ont défendu mal, puisqu'il y a eu 55 occasions pour le PSG dans le match, qui n'ont rien proposé, qui ont marqué un but assez miraculeux, très ironiquement, sur un CSC d'Mbappé, et voilà. Ils ont attaqué les 5 dernières minutes, ils ont concédé des occasions en compte, mais ils ont proposé quelque chose quand il a sorti Radji et fait rentrer Ronny Lopez. Je ne comprends pas, et franchement je ne comprends pas, cette idée de dire on joue contre Paris et on bétonne. Ça marche pas. Il y a une équipe qui l'a fait, c'est Montpellier, et le terrain était bidon, sans vouloir chercher d'excuses, mais ça ne marche
et
plus.
Et le PSG et était moins impliqué, parce qu'il y a des matchs où ils peuvent arriver et être trop nonchalants, ça arrive. Même
mais tu me rejoins Daniel que...
La piqûre de rappel de l'OM a été bonne pour ça.
Mais l'image de la Ligue 1 ce soir, elle est terrible. Enfin, pardon, mais imaginez, vous êtes à l'étranger, vous zappez sur ce match, vous voyez une ambiance délétère.
Oui, si tu vois, t'as raison. Si t'es à l'étranger, c'est le choc de la Ligue 1 entre le champion et son vice-champion de l'année dernière. Oui, il vaut mieux pas le regarder, quoi. T'as qu'une seule équipe, l'autre ne fait rien, n'a aucune initiative, n'est pas entreprenant, a des bons joueurs sur le terrain, parce que je suis désolé, c'est un paquet de mecs de cette équipe ont quand même fait demi-finale de Ligue des Champions, mais ils ont tous la tête ailleurs. Ils sont plus dans le coup, il y a plus d'osmose collective.
C'est ce qui fait peur. Hein,
ils traversent un moment délicat.
C'est ça que la semaine elle fait mal hein, quand même.
Moi, jusque-là.
Bah, d'ailleurs, lundi soir, Pierre en parlait en disant est-ce que ça va être la semaine terrible pour Monaco et je t'avais. Alors, elle est terrible et je t'avais répondu. Après, ils peuvent malgré tout jouer la deuxième place et pourquoi pas faire un bon parcours en UEFA. Bon, alors, le bon parcours en UEFA, il n'existera plus. Ouais. Et deuxième en championnat. Il faut pas qu'il continue comme ça.
Il faut vraiment
qu'il se ressaisisse parce que là, s'il continue comme ça, c'est quatrième qui vont terminer.
Et c'est là, si tu te rappelles lundi soir, c'est là que je te disais que en fait, rien ne serait définitivement joué ou pas joué après ces deux matchs-là, mais que par contre, ça pouvait laisser des traces énormes. Et là, moi, je suis très surpris, pas de la défaite de Monaco, c'est pas ça le problème. C'est la manière d'aborder le match. Est-ce que après une déconvenue européenne comme ça, t'as des garçons de caractère qui se remettent dans le bain et qui essayent d'emmerder, excusez-moi du mot, le Paris Saint-Germain qui va finir champion? Ou alors, est-ce que t'as des mecs qui lâchent? Et là, ce soir, on a vu un Monaco qui lâchait.
Et vous savez quoi? On va analyser. Ah bah teasing, oui. Parfait. On vous attend au 32-16 pour analyser la prestation de l'AS Monaco. Mathéo?
Ouais.
T'aimes bien Neymar aussi ou pas?
Évidemment que j'aime bien Neymar.
T'aimes bien lire ou pas?
Aussi.
Eh ben c'est pour toi aussi. Un roi à Paris, Neymar. Voilà, biographie sur le parcours du talent brésilien. Merci à toi, Mathéo. À très bientôt.
Salut, ciao, Mathéo.
Et nous, on vous attend, supporters de l'ASM au 32-16 pour analyser cette défaite. Une victoire sur les 5 derniers matchs seulement pour l'AS Monaco. Éliminé de la Coupe d'Europe. Là, il voit les poursuivants se rapprocher au classement également. Paris s'est donc imposé à Monaco.
Il y avait Amiens. Quoi. Ouais.
Je réfléchissais
en championnat ce qu'ils avaient fait avant Paris.
Ouais, tout à fait.
Exact.
À tout de suite pour la suite de l'After avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, on vous rappelle que ce soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé à Monaco 2-1, que Marseille cet après-midi a battu Guingamp 1-0, que Lyon est allé gagner 5-0 à Nice. Le Paris Saint-Germain maintenant 9 points d'avance sur l'ASM, qui est à égalité de points avec Lyon. Marseille est à 1 point de l'AS Monaco. Nice est pour l'instant barragiste. Accueillons Thomas, supporter de l'AS Monaco, qui nous a appelé au 32-16. Salut Thomas.
Oui, bonsoir les gars. Merci de prendre
Thomas.
L'antenne.
Bah non, merci à toi de nous avoir appelé. Thomas, qu'est-ce qui t'a marqué toi ce soir en tant que supporter de Monaco au cours de cette défaite face au PSG?
Bah écoutez, moi les gars, ce soir je suis dépité. J'ai vu des gars sur le terrain qui n'avaient pas d'envie, ils voulaient pas jouer. Je pense à Fabinho, il mouille pas le maillot, enfin c'est une calamité. Je sais pas moi, Jérôme Rotten s'il voit ça quand il regarde la télé, enfin qu'est-ce qu'il en pense? Quelqu'un qui mouille autant pas le maillot, enfin, je veux bien qu'il ait des problèmes peut-être extra-sportifs avec son agent ou je sais pas quoi, mais c'est pitoyable son attitude sur le terrain. Il va pas sur les ballons. Pourtant, l'année dernière,
c'était votre taulier, c'était le meilleur joueur.
Ben c'est ça, l'année dernière, c'est grâce à lui en particulier.
Mais un transfert raté, c'est fini, hein, c'est ça le foot d'aujourd'hui.
C'est
ça s'appelle le foot moderne, ça.
Ah, mais ce qui veut dire que le mec est pas si costaud que ça, quoi.
Ben non, mais il va sur tous les ballons
si
avant.
Ça, mais à un moment donné, si t'es le taulier d'une équipe, tu peux continuer à l'être même quand l'équipe est un peu moins bien. Alors je te dis pas être aussi bon parce que faut qu'il y ait forcément un collectif qui marche pour être très bon.
À Monaco, depuis qu'il est arrivé, il a tout le temps été bon. Quand il démarre et qu'il est arrière droit, il est bon. Quand il est remplacé en milieu défensif,
cette saison, c'est pas le même.
L'année dernière, il est excellent et cette année, il est mauvais parce que le gars.
C'est ce que je te. Donc ça vient bien de là-haut, à mon avis, tu vois, c'est bien.
Dans sa tête, on est d'accord. Parce que dans sa tête, il est plus au club. Mais le problème, c'est qu'avec cette attitude-là, je sais même pas si d'un coup, de quelle façon peut se faire le transfert et où, quoi, finalement. Il est plus, il sera plus aussi,
c'est lui qui va être, pardon.
Clinquant qu'il l'était au mois d'août, où il était demandé, où le PSG était capable de mettre 60 millions. Non, mais lui risque d'être perdant, et Monaco aussi.
Et Monaco aussi,
bien sûr. Monaco aussi.
Surtout Monaco, d'ailleurs.
Ouais, mais quand Monaco aussi. Quand mais s'il s'en va au mois d'août, alors c'est ça que tu dois te dire quand t'es dirigeant, c'est que tu dis, tu le gardes, parce que tu dis, s'il s'en va, on n'aura vraiment plus personne, notre milieu, il faudra tout reconstruire, et tu l'as gardé, et tu réussis pas à le remettre en selle et à le relancer.
Ouais, mais tu
et,
peux pas le faire pour lui.
Et peut-être que ton équipe finit quatrième au final. Et ouais, mais Daniel, tu l'as gardé, mais t'as pas récupéré l'oseille que tu dois garder. Enfin, c'est très compliqué.
Quand t'es dirigeant,
c'est quand même compliqué.
Quand t'es dirigeant, t'es en droit effectivement de te dire ça, c'est-à-dire qu'on va en garder un petit peu quand même. On va pas laisser partir tout le monde. Pour
évidemment,
faire une saison correcte.
Évidemment,
surtout
dois dire
que
ça.
N'oublions pas que Monaco a quand même un peu recruté aussi. Voilà, il est pas avec des peintres,
même,
il est pas tout
beaucoup,
seul.
Mais l'équipe, elle est bonne.
Il y a des bons joueurs. Le club ou les dirigeants ne peuvent pas jouer pour Fabinho. Et moi, là, si je suis dirigeant de d'autres très grands clubs, parce que là, on touche à très peu de clubs pour des joueurs comme ça. Tu te dis que peut-être le mec mentalement il est pas aussi costaud que ça. Alors je dis pas qu'il doit être aussi bon que l'année dernière parce que tu dépends toujours d'un collectif qui tourne plus ou moins bien et là ça tourne moins bien cette année. Mais il devrait être quand même bien meilleur que ça et on le sait il en est capable.
Ah, il devrait oui.
Thomas, Daniel, c'est vrai qu'il a posé l'équation finalement. C'est quoi le mieux, c'est de le vendre maintenant ou l'été prochain?
Tu le vendras pas maintenant.
Cet hiver, je veux dire.
Tu le vendras pas cet hiver là.
Mais cet hiver,
techniquement c'est possible.
Tu le vends à qui? Il a déjà joué la Ligue des Champions. Qui sait qui va t'acheter là maintenant?
Je sais pas les gars. Moi il y a des mecs qui peuvent qui préférait l'acheter maintenant que l'été prochain, je sais pas. Monaco, peut-être qu'ils vont essayer de le lâcher maintenant, j'en sais rien.
Moi, je suis pas sûr que ce soit facile, hein, pas du tout.
Mais moi, pour moi, déjà, ce gars-là, il avait un ticket pour partir cet été. C'était le premier qui devait partir.
Ouais, c'est vrai.
On lui avait promis de partir. Au final, on a vendu des joueurs qui n'étaient pas forcément sur le départ. Un Mendy qui venait d'arriver, il a fait une saison à Monaco, il est parti directement. Fabinho, lui, ça fait déjà 3 ans qu'il est à Monaco, il a tout donné pour le club. Maintenant, on le vend pas cet été alors qu'il voulait partir. Son attitude, en soi, elle est normale. Mais enfin, on le met pas sur le terrain. S'il joue comme ça, s'il veut pas jouer, il est pas sur le terrain. Il commence pas titulaire. C'est pas possible, quoi. Tu mets un milieu avec Moutinho et Tillmans, mais tu fais pas jouer un gars comme ça. Le gars, dès qu'il a le ballon, il essaye de s'en séparer. Et quand il arrive pas à s'en séparer, il la perd. Il fait n'importe quoi. Il met dans la merde.
Mais Thomas, c'est toute la difficulté d'un club qui ne fait pas de petit 1 et de petit 2 entre sport et économie et qui entre petit 1 sport ou petit 2 économie, c'est plutôt petit 1 économie et 2 sport. Moi, je le dis, la saison dernière, c'est une sorte de miracle très beau. Tout ce qui s'est passé est une histoire fantastique.
C'est un peu ce que dit Jardim d'ailleurs encore cette semaine.
Mais ça repose depuis quelques années sur la compétence de Jardim, sauf qu'il y a peut-être aussi Jardim a plus envie de le faire peut-être.
Je pense que lui aussi commence à être un petit peu fatigué de recoller les boules.
Et les joueurs aussi, il y a pas mal de blessés encore aujourd'hui.
Il y a des joueurs depuis le début de saison. Lemar a complètement disparu et lui aussi pensait certainement à se barrer. Sidy B doit être démotivé par rapport à ce qui se passait l'année dernière. Évidemment que c'est compliqué quand tu as des clubs qui sont pas là que pour donner
la meilleure performance sportive et le meilleur
résultat sportif. Que le sport est la chose principale. Il suffit juste de s'intéresser à qui est Dimitri Ribolovlev et ce qu'il a envie de faire de ce club-là, quoi. Voilà. Donc il faut juste retenir que l'année dernière c'était fantastique et que cette année ça le sera moins. Et en revanche, ça va être compliqué pour les mecs qui sont venus pour se valoriser, genre Tillmans, Baldé, tout ça. Si Jardim, mais attends, rien n'est fini. Jardim peut également recoller et faire en sorte. Mais s'ils vont pas en Ligue des Champions, ils vont perdre de la valeur. D'un coup, il va plus avoir les mêmes culbutes, il va plus y avoir la même vitrine pour certains joueurs. Ouais. Parce qu'il y a un paquet de joueurs qui sont aussi venus parce qu'ils se sont dit à Monaco. On va se montrer positivement et on pourra partir pour cher avec des gros salaires et on continuera notre carrière bien comme il faut.
Ouais, bien sûr.
Ce qu'il a est moins sûr.
Merci Thomas de nous avoir appelé.
C'est du business, il faut absolument comprendre que c'est du business tout ça.
Vas-y Thomas.
Pour mon Malik petit gazon là, je leur passe une grosse dédicace, mais écoute.
Vas-y.
Merci à vous les gars. Bonne soirée.
Salut, merci Thomas, merci. À bientôt.
Ciao.
Voyons ce qu'en pense Yacine, notre supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16. Salut Yacine.
Salut à tous.
Salut Yacine. Bon, est-ce que toi aussi t'as un coup de gueule à pousser contre Fabinho, ou alors il y a autre chose qui t'a déplu ou plus peut-être d'ailleurs ce soir du côté de Monaco?
Non, Fabinho, je vais pas l'accabler, c'est pas le sujet, je pense. Ce soir, déjà, on passe pas loin de la correctionnelle. Franchement, le 7-1, j'y ai cru, moi. Dès qu'on enchaîne comme ça les actions au départ, donc on n'est pas passé loin de la fessée. Si on revient sur Monaco aujourd'hui, encore une fois, moi, ce match-là, cette double confrontation contre Paris cette année, je la calcule pas puisque nos dirigeants nous l'ont prouvé dès la période estivale du mercato, que de toute façon, on jouerait pas dans la même cour que le PSG. Ça, je le déplore. Enfin, j'ai poussé mon coup de gueule en début de saison. Maintenant, bon, voilà, il faut passer à autre chose. J'y peux rien. C'est pas moi qui mets l'argent. C'est pas moi qui suis aux manettes. Et je pense aussi que les dirigeants se permettent de mener cette politique à Monaco parce qu'ils savent très bien que la pression populaire, elle est pas la même qu'à Marseille, à Paris ou à Lyon, par exemple. Donc maintenant, moi, je me pose des questions sur la suite. Là où je suis encore un peu patient, c'est qu'on n'a pas vu trois matchs d'affilée la même équipe de Monaco. On n'a pas vu le quatuor, par exemple, Lemar, Jovetic, Falcao et Ghezal ou Ronny Lopez. On l'a pas vu.
Ghezal, vaut mieux que tu le vois pas trop, mais dans ce quatuor, tu oublies que Tabaldé est quand même venu pour être titulaire dans cette équipe, hein.
Oui, mais j'ai dit, on n'a pas vu le quatuor trois matchs d'affilée, par exemple.
Ouais, c'est vrai que les Malinois n'ont pas été épargnés. Ouais.
C'est ça. Après, là, ça soulève aussi la question, on achète des joueurs. J'ai l'impression qu'ils font pas de préparation physique, qu'ils sont transférés. À la base, ils sont bien dans un club, ils sont bien en préparation à la base.
Oui, non, normalement, pour les joueurs dont tu parles et qui sont arrivés à Monaco, ils étaient tous dans des clubs, effectivement, ils sont préparés ailleurs qu'à Monaco avant d'arriver.
Ils mettent toujours au moins un mois avant d'être là. Ça, je comprends pas personnellement, mais c'est autre chose. Et Fabinho, franchement, je regarde les performances, je vois pas comment on peut l'accabler à ce point-là. Il est moins fort déjà parce que Bakayoko est pas à côté de lui, tout simplement. On peut pas lui demander de faire le travail de Bakayoko l'année dernière.
Enfin, il était fort d'être avec Bakayoko aussi. Hein.
Ouais, mais la doublette l'aidait bien aussi.
Il était fort avant aussi.
Hein. Donc c'est pas. Enfin, je veux dire par là que c'est pas. Quand je vois des joueurs comme Jemerton, Radji et Georgie aujourd'hui titulaires, là on voit que le niveau est beaucoup moins bon. On met une bonne équipe autour de Fabinho. Il va reprendre tout de suite. Enfin, on va le voir briller dans le collectif. C'est voilà, mettre tout le truc sur Fabinho parce qu'il est pas parti cet été, etc. Enfin, il nous a pas fait tout un cinéma. Il est quand même là, je le vois quand même faire ses matchs, même si on peut attendre plus. Faut arrêter. Moi, s'il y a bien une personne à pointer du doigt, c'est bien Riboloviev et puis Vassiliev aujourd'hui.
Alors, si on reste sur le terrain,
ils savent pas aller montrer du doigt, ils t'ont jamais menti, ils te racontent pas d'histoire. Il faut être naïf pour pas comprendre pourquoi ils sont là et ce qu'ils font.
Hein. J'ai commencé par dire de toute façon, ils ont annoncé.
Bah, bien sûr. Hein.
Après, on peut pas être d'accord. C'est-à-dire que les dirigeants sont contents. Les joueurs viennent se valoriser.
Mais il y a pas être d'accord. Si t'avais pas eu ces mecs-là, Monaco serait mort.
Les faits, Monaco existait avant eux. Hein.
Mais ils arrivent, t'es en Ligue 2, t'es pas bien, mais pas
dans le football d'aujourd'hui, Monaco existe pas. C'est sans ces mecs-là. Déjà, quand ils étaient arrivés, c'était totalement inattendu. On a cherché à comprendre pourquoi ces mecs-là avaient été intéressés par Monaco. On va pas épiloguer sur le pourquoi du comment, mais voilà. Hein. Donc après tout ce qui se passe, c'est non seulement miraculeux, mais c'est même génial parce que mine de rien, ils font le choix de prendre Jardim, ils font deux belles aventures en Coupe d'Europe, ils ont un titre de champion. Ils sont loin de faire comme
ça. Ce que veut dire Yacine, c'est que t'aurais pu aussi avoir des investisseurs.
C'est même un sacré succès.
Ce que veut dire Yacine, c'est que t'aurais pu aussi avoir des investisseurs qui mettent les mêmes sommes et avec d'autres ambitions sportives.
Tu ne peux pas. T'as pas de rentrée d'argent à part les joueurs. La seule rentrée d'argent à Monaco, c'est le trading de joueurs. Donc quand t'as
les droits télé quand même.
Ouais, les droits télé, tu peux avoir un peu de sponsoring aussi. Alors je suis d'accord, t'as pas de stade, t'as pas de supporters
pour réussir à faire quelque chose à ces niveaux-là.
Tout dépend ce que t'investis, tout est relatif, c'est toujours pareil.
Oui, non, là par rapport aux sommes investies, c'est avec les droits télé en France, c'est dérisoire.
Ça dépend ce que t'as envie de faire. Et là, évidemment, quand tu peux te permettre de vendre comme ils ont vendu l'année dernière, mais c'est inespéré. Jamais ça va revenir, un truc comme ça. C'était fabuleux les ventes de cet été.
Yacine, si on devait faire une petite évaluation rapide là sur ce Monaco Paris Saint-Germain, tu mettrais qui en taulier, toi?
En taulier? Pas à Monaco, j'imagine.
Hein. Si y en a un qui t'a plu.
Sur le match
Subašić ce soir qui est décisif quand même plusieurs fois.
Ouais, moi j'ai Glick qui est toujours constant quand même. Glick est toujours là, il fait toujours ses matchs. Lui là-dessus, je peux rien dire là-dessus. Après en face Neymar, franchement, il nous fait mal quoi.
Ah, il a accéléré sur
match ça, là, oui. Il nous fait super mal et je suis content de voir Cavani marquer autant de buts. D'une fois, je suis pas parisien, etc. Mais s'il y a bien un joueur de foot en ce moment, c'est bien Cavani. Il a l'état d'esprit, il se bat. Il a fermé sa gueule quand on l'a mis sur le côté pour la superstar Zlatan. Et aujourd'hui, il monte quand on le met dans l'axe. Il plante. Et franchement, ça, c'est un joueur. C'est un régal. Même dans l'état d'esprit. On voit plein de jeunes aujourd'hui qui ont un état d'esprit un peu bizarre. Cavani, c'est le talent et l'état d'esprit. On peut pas demander plus aujourd'hui.
C'est formidable, le retournement sur Cavani. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu depuis qu'il arrive
à PSG?
C'est génial d'entendre tout ça, surtout sur son attitude et l'exemple qu'il peut être
pour
beaucoup
ça.
De gens, quoi. Parce que vraiment, Cavani, faut savoir quand même que dans beaucoup de cours d'école, il y a encore plein de mômes qui disent c'est une chèvre.
Parce qu'ils entendent les grands le dire. Certains du dimanche soir sur certaines chaînes de dire ça.
Mais ça a fait un tort terrible à ce joueur.
Ouais.
Et là, c'est un peu en train de changer. Ouais. Mais on a du mal à comprendre justement. Et ça, c'est un des défauts dans l'analyse du foot moderne. C'est que d'abord, t'as énormément de jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Où on est très dans l'individualité et après quand tu joues, il y a énormément de mômes. Si tu vas dans un parc voir le collectif, ça veut pas dire grand chose. On joue pour dribbler, pour éliminer. C'est ça la culture du foot.
Mais tu sais que c'est pas le jeu vidéo. Tu sais ce qui a changé même dans le jeu vidéo, c'est l'individualité dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que avant, quand tu joues au jeu vidéo, moi je l'ai fait dans les jeux de foot. Déjà bon, moi j'ai été bercé à Football Manager, donc t'es déjà dans l'esprit managérial et collectif.
Non, moi je te parle pas de ça. Moi je te parle de FIFA.
Justement, FIFA. Avant, quand tu jouais au jeu vidéo, tu jouais avec tous les joueurs de l'équipe. Il y a un truc qui a énormément changé ces dernières années, c'est que les gens ont des notes individuelles. Et qu'aujourd'hui, un joueur, il y a des mecs qui connaissent les joueurs par les e-leagues, ce qu'ils appellent
Mais bien sûr.
Cavani, il a 75 et que t'as un autre mec, je te dis une connerie.
Non, FIFA, il est très bien noté.
Non, mais je te dis pas Cavani. Ça, mais s'il a une sale note alors que ça correspond pas forcément à la réalité, les gamins vont justement se calquer.
Je te rejoins sur un petit peu sur ça, mais sauf que depuis 2 ans, ça a beaucoup changé. Moi, j'ai un petit garçon de 11 ans.
Pas encore beaucoup.
Dans les clubs de foot, tu vois énormément de maillots Cavani.
Mais parce que ton fils connaît le foot grâce à toi, comme le mien. Et Cavani,
pas que le mien.
Cavani est une idole.
Ton fils, il connaît le foot grâce à Pierre.
Non, grâce à moi et le sien grâce à lui.
Mais il y a énormément de gens qui
Cavani ne comprennent pas tout son jeu, le sens du collectif. Qu'est-ce que ça veut dire jouer pour l'équipe, se battre. C'est pas quelque chose qui est totalement ancré culturellement. On est plus dans autre chose, le geste individuel, l'élimination.
Vous savez ce qu'il me dit Jérôme Thomas? Dans 20 ans, les gars, il y aura vos fils ici dans l'after.
C'est possible.
À votre place, hein, bien entendu, vous serez dégagé.
Enfin, moi, j'ai d'autres projets pour le mien, mais.
Ils peuvent passer un soir.
Mais si ça marche pas, le plan B, c'est ça.
Oui. Oh, voilà. Non, c'est pas le plan Q.
Tu veux mettre sur une autre chaîne?
Yacine, de nous avoir appelé.
De rien.
Bonne soirée,
merci
Yacine, à bientôt.
Bonne soirée.
Merci, Yacine, à bientôt. Tiens, supporter lyonnais, supporter niçois, on vous attend au 32-16. Le carton de cette journée, c'est Lyon qui l'a obtenu. Victoire 5-0 à Nice cet après-midi. Supporter de l'OM, on vous attend également. Marseille qui n'est qu'à un point de l'AS Monaco au classement. Marseille qui s'est imposé 1-0 face à Guingamp. L'after se poursuit dans quelques instants.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Et Daniel Riolo et Pierre Ducrot et vous au 32-16, bien entendu, ce soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 à Monaco, le PSG qui a 9 points d'avance sur son adversaire du soir, justement. Marseille s'est imposé 1-0 face à Guingamp et surtout, Lyon s'est imposé 5-0 face à Nice, doublé de Depay, but de Cornet, but de Mariano, but de Maolida, Fekir était malade.
Cornet a marqué.
Ouais. Et Maolida, un très bon ce jeune joueur.
Un beau but d'ailleurs.
Ouais. C'est vrai qu'il est pas mal son but.
Ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire lyonnaise, Daniel?
Bah, comme on disait tout à l'heure, d'abord, finalement, l'idée qu'ils étaient trop Fekir dépendants, bah, c'est pas vrai. Ils peuvent s'en sortir sans lui. D'ailleurs, 2 à 3, pareil, ils avaient joué sans lui, ils avaient gagné aussi 5-0.
Alors, Montpellier, ça a été plus dur, hein, 0-0.
Et puis, ils peuvent s'en sortir, ils peuvent le faire, ils peuvent bien jouer.
Ouais, ça dépend du contexte, de la configuration du match.
Aussi.
Oui, ouais, c'est ça, de la configuration du match. Dans un match un peu plus âpre, un peu plus disputé, il peut faire des différences.
Ce match-là, ok, Nice est dans les profondeurs du classement. Maintenant, mais ce match-là, S'il y en a un dans les derniers où tu pouvais t'attendre à ce que ce soit un peu plus compliqué, tu te dis bon, Nice à un moment, ça va quand même se réveiller, ça va quand même bouger, ouais. Favre va tenter un truc, ils sont tellement mal en point Nice que en recevant une grosse équipe, ils vont tous se motiver. Au final, série bidon, enfin ils sont tous, ils se sont tous fait manger, mais aussi parce que d'ailleurs coup tactique aussi de Favre qui a changé avec pareil trois mecs dans la un peu comme Monaco ce soir d'ailleurs, ils se sont fait transpercer et derrière l'efficacité des Lyonnais, bah c'est un petit peu la différence avec les Parisiens ce soir d'ailleurs. Le score que Lyon a mis, moi au début j'ai cru que Paris ferait le score
à une demi-heure de jeu, il y avait 3-0
de Lyon, ouais, mais très, Lyon très a efficace. Été méga efficace en transformant quasi tout ce qui passait et en ce moment ils sont comme ça, très efficaces. C'est vrai qu'ils se sont en plus trouvé un style. On récupère le ballon, on explose très très vite. Les passes, c'est tranchant vers l'avant. Et d'ailleurs dans ce système-là, Memphis Depay devient un très bon joueur. Alors que dans un jeu haut de possession, là, il y a moins de qualité chez lui qui s'exprime.
On avait peur que le fluide de Daniel Riolo sur Pep Genesio se soit envolé. Bah finalement,
non, c'est moi, je lui ai renvoyé une fiole.
Ah ça y est,
ouais.
Une fiole. Attention,
je me suis gratté un peu la tête comme ça, il y a un peu de jus qui est tombé dans une fiole et je lui ai mis ça, petite enveloppe,
écoutons,
il a reçu.
Écoutons l'analyse de ton avis, Bruno Genesio, Daniel, à l'issue de cette victoire de l'Olympique Lyonnais à Nice 5-0.
C'est un match que l'on craignait, parce que même si Nice était mal classé, on savait qu'avec le retour de joueurs importants, c'était une équipe difficile à manœuvrer, notamment à domicile, donc on est très satisfait du contenu et du résultat.
Pierre ?
Ouais, non, mais c'est ce que Daniel disait. Ça a été des Lyonnais très très efficaces et des Lyonnais qui sont depuis un petit moment maintenant collectivement dans un système qui leur convient parfaitement. Et tu parlais tout à l'heure de l'assise défensive, à travers quelque chose de symbolique, c'est-à-dire l'invincibilité de Lopez. C'est pas juste Lopez, c'est la défense. Ouais,
sûr.
Non, mais même pas que la défense, quoi. C'est que milieu. Lyon défend très très bien ensemble, quoi. Mais des attaquants jusqu'au gardien, et ça leur permet effectivement de très bien défendre ensemble et d'éclater après. Et c'est ce que Daniel disait, c'est peut-être finalement le style qui leur convient le mieux et qu'ils n'avaient pas trouvé pendant les deux premiers mois et demi, quoi. Et ils étaient à chaque fois, enfin on sentait ils forçaient leur football, ils se trouvaient pas. Et là, on a l'impression que tout fonctionne bien. Et comme par hasard, effectivement, quand tout fonctionne bien collectivement comme ça, tu peux te passer de temps en temps de ton meilleur joueur. Ce qui ne veut pas dire que sur la durée, et là par contre, moi je pense qu'il y aura une Fekir dépendance cette année, parce que c'est lui qui va te débloquer des situations ou des matchs beaucoup plus difficiles que celui qui était proposé au Lyonnais cet après-midi.
Greg, supporter de l'OL, a pris son téléphone, il a fait le 32-16 et il a appelé l'after. Salut Greg.
Oui, bonsoir monsieur, je vous écoutais attentivement. Je vais rebondir par rapport à ce que disait Daniel. C'est vrai que Memphis, dans ce système de jeu, c'est-à-dire en contre, c'est à son avantage. Et c'est vrai que par rapport au recrutement qui a été fait, je crois qu'il y a un pragmatisme de jeu qui a été mis en place, de fait. On se retrouve avec Traoré d'un côté et Depay de l'autre, hein, c'est-à-dire des flèches, quoi. Parce qu'effectivement, ils sont allés vers une espèce de mutation et des automatismes qu'ils n'avaient pas avant, c'est-à-dire effectivement de chercher à écarter. Peut-être qu'on le faisait moins les autres saisons. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Depay, j'avais beaucoup de doutes quand il est arrivé. Je crois que la période de réflexion dans les tribunes lui a fait le plus grand bien. Je trouve qu'il fait plus d'efforts individuellement.
Oui, il y a plus de blocs équipe. Greg, tu as raison, c'est beaucoup plus compact. Oui.
Ouais, mais après, c'est vrai que je reste persuadé que concernant Depay, vous voyez, encore là en sortant, il faisait un peu la gueule. Alors, déjà, il a dit, ouais, mais mercredi, il y a match, quoi. Il y a match, mais il faisait la gueule. Donc, il y a quand même ce tempérament un peu, je pense qu'il faut arriver à le dompter. Je trouve que mon équipe de junior me plaît bien, quoi. Voilà, cette année, je trouve qu'il y a un bon état d'esprit. Les latéraux, c'est intéressant, on a 4 joueurs.
C'est vrai qu'il y a du choix en plus hein, dans
ouais,
les postes. Hein.
Sur les latéraux, ouais. Après, le poste, bon, Ndombele, Touzard, je l'ai vu arriver. Mais Ndombele, j'avoue que là, c'est 2-6, ça suffit, hein. On n'a pas besoin de 36 là. Et après, la petite technique, effectivement, c'est Kirawar. C'est intéressant, voilà. Tout ça me laisse plein d'avis à chaque fois quoi, de regarder leur match, parce que je sais qu'il va y avoir des occasions, qu'il va y avoir du jeu, qu'il va y avoir des buts. Quoi.
Bon, eh ben merci de nous avoir appelé voilà. Greg en tout cas.
Voilà, bon écoutez moi, pour la Ligue 1, je pense que on va.
Ça, c'est
on
un
va
supporter de Lyon qui est l'accent de Marseille.
Ouais, voilà, pourtant, tu nous appelles d'où d'ailleurs, Greg?
Ah, du Tarn. Du Tarn, mais bon, je suis un fidèle auditeur. Voilà, ça fait déjà quelques temps que je connais.
Pourquoi tu supportes l'OL alors?
Oh, mais c'est une longue histoire. Mais disons que à la fin des années 90, voilà, j'ai trouvé ce club de losers intéressant.
c'est ben conceptuel, ouais,
mais non, mais c'est vrai. Non, mais
j'adore rigoler.
Non mais vous rigolez, mais à l'époque c'était des losers, c'est comme Toulouse, quoi.
Avec leur maillot, c'est un brindou, là.
Non mais surtout le palmarès, quoi. C'est comme Toulouse, c'est une grande ville avec un palmarès familique au départ quand on se le prend. Et puis là, petit à petit,
Lyon historiquement, il y a quand même plus de foot qu'à Toulouse, hein, quand même.
Oui, oui, mais
il y a quand même eu quelques joueurs même avant les années 2000 qui étaient des joueurs de ballon, alors que Toulouse, bon.
Oui,
à part Beto Marsico,
Il y a Beto Marsico, bien sûr, la légende, non. Mais ouais, voilà, je crois que c'est ce côté-là. Puis après, effectivement, quand j'ai vu ce club monter, ça m'a, je me suis intéressé au truc, puis j'ai commencé à les suivre, quoi. Et c'est vrai que quand Sonny Anderson est arrivé, hein, je me suis dit, ah tiens, ça, c'est un signal, peut-être. Et bref, voilà, et donc je les suis depuis, quoi. Et puis bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas trop à m'en plaindre, hein, voilà. Je trouve que notre centre de formation est intéressant.
Bah, ça, c'est sûr.
Je trouve que ça joue. Je trouve que ça joue. C'est que tous les ans, malgré les défauts, tout ça, il y a quand même une volonté de jouer, même si les effectifs se rajeunissent d'année en année. Mais bon, on a un bon centre de formation, et puis ça peut nous permettre de passer des moments un peu plus critiques par moment.
Merci en tout cas, Greg, de nous avoir appelé. Bonne soirée, Greg.
Écoutez, avec plaisir.
Belle
à la prochaine.
À bientôt.
Allez,
ciao.
Gardez la pêche. Ciao.
Merci, toi aussi, Greg. Tiens, vous avez suivi ou pas ce qui s'est passé ce week-end dans l'after? Vous savez qu'on fait tout dans l'after. Daniel le disait. Ok, on a la référence et on arrange même des coups. On a fait même des transferts. T'es au courant de cette histoire ou pas? On a eu Oumoud Bozok. C'était vendredi soir. Il a claqué un triplé avec Nîmes qui s'est imposé face à Bourg. Et puis on a eu, voilà, dans l'after, Oumoud Bozok, le meilleur buteur de Ligue 2, international espoir turc. Et on a demandé quel était son club de cœur. On lui dit, ah bon, moi, mon club de cœur absolu, c'est Galatasaray et l'Olympique Lyonnais. Bah alors vas-y, Oumoud, balance un message à Jean-Michel Aulas. Il l'a fait. Très frais, hein, vraiment sans filtre, très sympa, Oumoud Bozok. Jean-Michel Aulas a écouté la vidéo sur Twitter. Et puis depuis, bah les deux, c'est l'amour fou sur les réseaux sociaux.
En même temps, si tu veux créer quelque chose avec un président de club sur Twitter, vaut mieux le faire avec Jean-Michel Aulas que d'autres clubs.
C'est vrai qu'il est réactif.
Voilà, il est réactif et il pouvait pas le louper, quoi.
Voilà, Jean-Michel Aulas, voilà. Donc imaginez que Bozok demain signe à l'Olympique Lyonnais, ce serait
pas ça. Tu prends une com.
C'est ça, voilà, exactement. on la fera comme ça. Un petit mot sur l'OM quand même, les gars, qui s'est imposé 1-0 face à Guingamp. Le seul buteur du match, c'est Thauvin. C'est une belle série quand même, hein, pour l'Olympique de Marseille. On le disait, Marseille qui est à un point seulement de Monaco au classement.
Je vais être franc tout de suite. Je commentais sur SFR Sport, donc je n'ai pas vu le match de l'OM.
Scandale.
Voilà, donc je vais pas pouvoir commenter quelque chose que je n'ai pas vu. Déontologiquement, je me l'interdis.
Alors rien à voir avec ce que fait Lyon au niveau des automatismes, de la vitesse, de ce qui se passe.
C'est Marseille. Moins
Marseille a également un problème, c'est que devant ça s'améliore pas le poste d'attaquant de pointe. Donc faut voir aussi que les problèmes qu'ils ont pour concrétiser les occasions, c'est un souci, parce que globalement, surtout dans la première période, en tout cas la première période parfaitement maîtrisée, ils ont même, je trouve, vraiment bien joué. La deuxième, c'était moins bien, mais bon, il faut pas non plus aller penser que Guingamp a inquiété l'OM et tout, à part un ou deux coups francs en toute fin de match, tu t'es dit, ah, à force de pas avoir concrétisé, s'il y a un ballon qui traîne dans la surface, ils vont peut-être se mettre en panique, mais ça c'est même pas arrivé. Ils jouaient on a vu Sanson et Payet ensemble. Sanson dans sa position préférentielle, mais pas Payet, qui a joué dans un 4-3-3 plutôt sur le côté, même si
côté
franchement
côté gauche.
Il bougeait tellement qu'il rentrait tellement à l'intérieur qu'avec Sanson ils alternaient. Ça s'est pas si mal passé que ça. Après, le truc c'est que Payet, il est quand même lent, il donne pas énormément de vitesse. Alors c'est sûr qu'il réussit des passes parce que bon,
oui,
il est quand même à l'aise
techniquement. Voit le jeu.
Puis il sort, je crois il doit sortir 70 ou 71e, quoi, donc il termine pas les matchs. Donc c'est pas eux que je mettrai en avant, c'est encore une fois Gustavo, parce que l'équilibre passe par lui.
Bon.
Et Thauvin qui est le plus régulier, qui est le mec discret, qui se bat, qui met un très beau but d'ailleurs. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce que disent les stats, comment on s'est intéressé aux stats en transversal aujourd'hui.
Sur SFR Sport. Ouais.
J'aimerais bien savoir si sur le but de Thauvin, je sais pas si vous l'avez vu, mais si on dit que là-dessus il y a passe décisive de Payet.
Hein? Ouais, il y a passe décisive de Payet.
Ouais. Bah c'est stupide.
Ouais, mais c'est statistique.
Mais c'est stupide.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
C'est absolument stupide. Parce que non seulement il contrôle le ballon, il rentre dans la surface, il élimine deux mecs et puis ça se termine par une belle frappe intérieure pied gauche. Ça, ça peut pas être
passe décisive. Je suis d'accord avec toi,
stupide.
C'est bizarre,
ça n'a aucun sens.
Mais c'est considéré comme passe
décisive. Ça n'a aucun sens.
Accueillons Vincent, supporter de l'OM. Salut Vincent.
Bonsoir.
Salut Vincent.
Ça va, tranquillement.
Bon, qu'est-ce que tu dégages toi de cette victoire de Marseille alors?
Alors, moi, je suis, entre guillemets, je suis très content de tout ce qui se passe à l'OM pour l'instant. dans le sens où on monte gentiment en puissance, même si on gagne que des matchs par des petits écarts et que comme tout le monde le dit, on joue au mental et qu'on finit souvent les matchs avec des buts raccro, mais qu'on arrive toujours à attraper la victoire ou au moins le nul. Moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est que j'ai l'impression que, comme disait Monsieur Riolo, qu'on a un gros problème en attaque, mais je pense pas que ça vienne des joueurs, hein, des attaquants purs. Je pense pas que ça vienne de Germain, je pense pas que ça vienne de Mitroglou, je pense pas que ça vienne de Ngie. Je pense que ça vient plutôt d'en dessous. Parce que j'ai regardé attentivement le match de l'OM, comme tout le temps, je regarde tous les matchs attentivement de l'OM. Et à chaque fois, je vois le pauvre Mitroglou, quand c'est lui, parce qu'on le critique beaucoup. Je le vois beaucoup faire des appels, travailler, essayer de chercher des espaces d'élargir la défense adverse. Mais au final, il a aucun ballon. Et le peu de ballons qu'on lui donne, eh ben, c'est des ballons, des saucisses, quoi. On le voit au tout début de match, il prend une tête, alors il se détend, il dit ok, il est grand, il a une bonne détente, mais faut pas dire que c'est un bon ballon.
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour Mitroglou. Et d'ailleurs, souvent on l'a dit hein, ici. D'ailleurs, ce serait bien de le mettre avec Germain. C'est déjà fini, les gars. Et ouais, il est déjà bientôt minuit. Juste vous dire que vous pouvez lire le champion du sport français 2017, les RMC Sport Awards. C'est sur rmcsport.fr. Vous avez toute la liste.
Le champion français.
Ouais, voilà, parce que t'as des équipes, mais t'as aussi des sportifs français. Voilà, le sportif français ou l'équipe française de l'année 2017.
Ah voilà, ou l'équipe.
Voilà, c'est ça. Ouais, donc, voilà. L'élection du champion du sport français.
C'est pas individuel, forcément.
Non, pas forcément. Non, t'as l'équipe de France de handball masculine, t'as l'équipe de France masculine d'épée, par exemple.
D'accord.
Voilà. Et puis également vous dire que vendredi, il y a le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde. Voilà, on connaîtra les groupes pour la Coupe du Monde. Vous ne raterez rien du tirage
c'est
au sort
ça.
Vendredi dès 16h sur RMC. Et à cette occasion, on vous y offrira même les toutes premières places pour cet événement exceptionnel.
T'aimerais qui, Daniel, toi? Une équipe que t'aimerais bien dans le groupe de la France.
Je sais pas, on avait fait les groupes, je me souviens même plus là. Là,
merci Daniel, merci Pierre, merci à toutes et à tous, merci à toutes les équipes techniques, parce que Daniel, il a le RMC Poker Show qui l'attend. Merci, bisous, ciao.